Et on démarre avec le duel. La directrice de Maria Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, sont à mes côtés. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Avant de revenir en France et de nous intéresser au mouvement social et au conflit qui se joue autour de la réforme des retraites, un détour par la perfide Albion.
C'est un nouveau mandat pour le gouvernement conservateur, un mandat puissant, pas seulement pour finir le Brexit, mais aussi pour réunifier ce pays et le faire avancer. Nous allons nous concentrer sur les priorités des Britanniques et avant tout sur le système de santé. Et oui, nous allons recruter 50 000 infirmières supplémentaires et 6 000 médecins et nous allons construire 40 nouveaux hôpitaux.
Boris Johnson, Bojo, Premier ministre triomphant et donc reconduit, qui s'exprimait devant le 10 Downing Street à Londres après sa large victoire aux élections générales. Intéressante situation, vous teniez à y revenir l'un et l'autre. Comment analyser ça, Natacha? Est-ce que c'est au fond une sorte de deuxième vote des Britanniques pour le Brexit qui s'est exprimé?
Alors, il ne faut jamais s'emballer trop, il faut regarder le mode de scrutin. Donc si on rentre dans les détails, on peut considérer que dans la mesure où c'est un scrutin uninominal à un tour, c'est le premier qui l'emporte, même si le second ou le deuxième est juste derrière. Donc voilà, on peut toujours arguer de ce genre de choses. Pour autant, premier constat, il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, les commentateurs en France expliquaient que Boris Johnson s'était pris claque sur claque, qu'il était fini, que évidemment la machine parlementaire lui avait montré à quel point sa stratégie était mauvaise.
Quand vous parlez des commentateurs, vous parlez de Gilles ?
Non.
Je le dis en plaisantant.
Ah non. Non, mais pourquoi? Pas du tout. Non, c'est simplement le bruit qu'on entendait en France. Et c'est assez frappant de constater que, en fait, Boris Johnson n'est pas du tout le clown qu'on nous présente, qu'il a depuis longtemps cette stratégie extrêmement pensée qui aboutit aujourd'hui à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Alors pourquoi l'obtient-il? D'abord parce que, contrairement là aussi à ce qui est un peu facilement prétendu par certains commentateurs qui ont tendance, et c'est souvent le cas,
mais
à prendre leur désir pour des réalités...
Mais qui sont ces certains commentateurs, Natacha?
Vous écoutez de temps en temps les commentaires sur les chaînes d'infos, sur les voilà, tous les voyez cette musique des éditorialistes qui disent en gros il faut revoter, le peuple britannique ne veut plus du Brexit. Bah en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est plus compliqué que ça.
Gilles Finkelstein.
Ce bruit qu'évoque Natacha correspondait pour partie aussi à une réalité. La législature qui s'est terminée a été un cauchemar pour les conservateurs. Et d'une certaine manière, je crois qu'on peut dire que c'est moins les conservateurs qui ont gagné cette élection que les travaillistes qui l'ont perdue. Boris Johnson réalise un score...
C'est une drôle de manière de voir les choses. C'est quand même une victoire écrasante et qui est la première de cette ampleur depuis des décennies, Gilles.
Mais évidemment, c'est une victoire écrasante. Il n'en demeure pas moins que Boris Johnson fait le même pourcentage de voix à epsilon près que Theresa May dans l'élection précédente. Donc c'est d'abord un triomphe en raison de l'affaissement des travaillistes. Quatrième défaite de suite pour les travaillistes, un de leurs pires scores depuis 1935, alors même qu'on sort d'une législature qui a été un cauchemar. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, et je crois qu'il y a deux explications principales. La première, c'est que les travaillistes ont perdu, et ont perdu nettement, la bataille du leadership. La défaite des travaillistes, elle tient en deux mots, Jeremy Corbyn. Il y a eu un sondage qui a été fait auprès de 100 000 Britanniques juste avant l'élection. Et donc quand on croisait toutes les catégories, toutes les sympathies partisanes, tous les pros et les anti-Brexit, quelle était la principale faiblesse du Parti travailliste, c'était Jeremy Corbyn. Donc la première défaite, c'est ça, et même dans un
il
régime...
Il quitte le leadership du Parti travailliste, juste pour la précision, lui-même ayant été réélu malgré tout.
Oui, donc... Même dans un régime parlementaire, le leadership, c'est très important. Mais il y a une deuxième explication, c'est que les travaillistes ont perdu la bataille de l'agenda. Dans toute élection, il y a une question stratégique qui est de savoir sur quel terrain va se faire la bataille électorale. Vous avez un certain nombre d'élections dans lesquelles on n'a pas le choix. C'est un peu, pour utiliser une image de patinage artistique, des figures imposées. Et puis vous avez des campagnes dans lesquelles ce sont des figures libres. Chacun essaye d'amener la campagne sur son terrain. Et ça a été exactement le cas de cette élection, et c'est ça qui est intéressant. Les conservateurs ont dit il y a un sujet, le Brexit. Les travaillistes disaient il y a un sujet, les questions, le système de santé. Eh bien, au bout du bout, c'est le sujet que les Britanniques ont considéré comme étant le sujet
central. Le système
central,
de santé.
C'était le Brexit, et c'est grâce à ça que les conservateurs ont gagné, parce que sur ce sujet-là, ils avaient une position claire et les travaillistes avaient une position qui était une position ambiguë.
Natacha.
Alors, là où je suis d'accord, c'est en effet sur le fait que Jeremy Corbyn a échoué à imposer une vision claire, à donner l'impression qu'il avait un véritable projet face à celui de Boris Johnson. On peut ajouter aussi une question sociologique. Quand on regarde la carte d'Angleterre, on s'aperçoit que, comme partout ailleurs en Europe, les villes ont continué à voter travailliste, alors que tout le reste a voté conservateur. Mais surtout, on est frappé aussi d'une chose, c'est que partout en Écosse, au Pays de Galles, les travaillistes ont été remplacés par les indépendantistes. Vous n'avez plus un député travailliste en Écosse, c'est absolument fou. C'est-à-dire, ils ont été laminés. Pourquoi ? Parce que justement, là où j'ai la raison, c'est que sur cet agenda imposé qu'était le Brexit, eh bien, les indépendantistes écossais sont apparus comme ceux qui étaient le plus farouchement opposés à la politique de Boris Johnson. Mais derrière, il y a la question aussi de la façon dont on perçoit la société britannique dans son ensemble et la constitution du Royaume-Uni. Et là, ça va devenir extrêmement explosif.
Juste un mot avant de passer au sujet suivant. Le Brexit, qui est donc prévu pour le 31 janvier 2020, c'est dans pas très longtemps, c'est un peu plus d'un mois. Gilles, est-ce que maintenant on peut dire il aura donc enfin lieu au 31 janvier?
Alors, quoi qu'on pense du résultat, cette élection a au moins ce mérite, c'est que l'incertitude dans laquelle les Britanniques et les Européens sont depuis maintenant plusieurs années, cette incertitude-là est levée. Donc le 31 janvier, l'accord sera voté. Il faut quand même préciser deux choses. Ça veut dire qu'une période de transition s'ouvre et qu'il y a donc une nouvelle négociation européenne pour savoir quel sera le statut final du Royaume-Uni. Et un deuxième élément que Natacha a évoqué d'un mot qui est très important, c'est qu'il y a une division britannique qui est extrêmement forte. En Écosse, 48 sièges sur 59 pour le parti indépendantiste. En Irlande du Nord, les unionistes, pour la première fois, sont minoritaires. Et donc, la question maintenant de l'unité même du Royaume-Uni est une question qui est posée. Et je reviens d'un mot sur ce que disait Natacha sur la sociologie, qui est un élément très important. Oui. L'Écosse, les travaillistes l'avaient déjà perdu, et c'est évidemment dans ce qui était un de leurs bastions, un élément qui est très important, parce que structurellement, maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour les travaillistes de gagner.
Et les Écossais qui avaient largement voté contre le Brexit.
Évidemment. Ce qu'ils ont perdu et qui est nouveau, ce sont les circonscriptions ouvrières du nord de l'Angleterre, ce qu'on appelait le mur rouge. Et donc là, c'est une question très profonde qui est posée, c'est de savoir pourquoi ils ont perdu. Je crois que l'ambiguïté a coûté. Ce sont des électeurs qui étaient plutôt des électeurs favorables au Brexit et qui, l'erreur stratégique de Jeremy Corbyn a été de maintenir cette ambiguïté, espérant gagner ceux qui étaient contre, sans perdre ceux qui étaient pour. Il a perdu des deux côtés. Et dernier point, je termine par là,
oui.
L'ambiguïté a coûté et la radicalité n'a pas payé. Il a voulu faire un programme qui était un programme très, très à gauche, qui était un programme qui s'apparentait plus aux 110 propositions de François Mitterrand en 1981 dans un pays et dans un moment qui sont différents, et ça n'a pas payé.
Là où je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense que le problème, c'était l'ambiguïté entre ce programme très très à gauche et le fait d'éventuellement rester dans l'Union européenne. Or, beaucoup d'électeurs britanniques, notamment de cette ceinture du Nord, considèrent que ça n'est pas compatible. Et c'est ce qui fracture la gauche partout en Europe. Cette question de la compatibilité entre le système de libre circulation des capitaux, des marchandises dans l'Union européenne et la question de la possibilité de faire un programme véritablement de gauche.
À ceci près,
la réponse d'un homme de gauche,
à ceci près
de la social-démocratie.
Social-démocratie, c'est pas la différence entre nous, c'est pas la gauche, c'est la question de la social-démocratie.
À ceci près que Jeremy Corbyn n'a pas dit qu'il était pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. C'est cette ambiguïté-là.
Voilà,
et quand on est clair, y compris quand on est sur une ligne, pour le coup, beaucoup plus à droite, type Tony Blair, trois fois a gagné les élections dans ces circonscriptions-là.
Oui, mais parce que lui, il est logique, Tony Blair. Il est néolibéral. Il a été un des fers de lance de cette politique-là et du ralliement de la deuxième gauche au néolibéralisme, notamment dans sa forme européenne.
Oui, mais ces électeurs ouvriers, ces électeurs populaires l'ont quand même suivi.
France Inter, le grand face-à-face, le duel. Votre amendement fixe une date d'arrêt de mise sur le marché du plastique jetable en 2040. Je crois que c'est là un signal très puissant, très fort, très concret, presque, pour le coup, je le dis, historique, que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde.
Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique. Le rire que vous entendez, c'est celui de Natacha Polony. Objectif 2040, donc, pour l'interdiction des plastiques à usage unique. L'Assemblée nationale a voté lundi dernier cette mesure dans le cadre du projet de loi sur l'économie circulaire. 2040, ça vous fait rire, Natacha?
On se hâte lentement, hein. C'est, faut pas non plus exagérer. C'est pour ça que non, c'est le terme historique qui fait quand même rigoler. Qu'il faille permettre à des entreprises de se reconvertir, de mettre en place des politiques, c'est une évidence. On ne fait pas comme ça d'un coup. La radicalité, ça ne mène à rien qu'à créer des fractures. Donc, il faut évidemment qu'une politique soit pensée et qu'il y ait un accompagnement. Enfin, ça va, 2040, avec en plus l'idée qu'on rediscutera tous les 5 ans, mais il n'y a aucun objectif fixé. Justement, les termes de la discussion ne sont pas mis en avant pour l'instant. Ça reste quand même d'une lenteur absolument effarante. C'est surtout que ce qui
prend... Une lenteur par rapport à quoi? Par rapport à l'urgence climatique?
Par rapport à l'urgence. Enfin, la question des plastiques, c'est une question majeure. Vous savez que McDonald's produit 1 kg de déchets par seconde dans ses restaurants, 1 kg de déchets d'emballage par seconde, alors même que la moitié des repas sont pris sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, produire du plastique qui pollue coûte moins cher que de payer quelqu'un pour ramasser les couverts et les nettoyer. C'est toute cette logique-là qu'il faut remettre en cause. Et je suis quand même frappée par la rapidité de ce gouvernement quand il faut agir sur les retraites, alors que là, sur le plastique, bon, 2040, ça va, on va prendre le temps.
Gilles?
Oui, Natacha, je partage ce que dit Natacha sur le fait que c'est un sujet qui est extrêmement emblématique, le plastique. C'est un matériau dont la production est de plus en plus, et la consommation est de plus en plus importante. On consommait en moyenne, en 1974, 2 kg de plastique par habitant. On est aujourd'hui à 43 kg. Donc c'est absolument considérable, alors même que on sait que ça se dégrade très lentement, parfois même plusieurs siècles, que ça pollue beaucoup, notamment les océans, qu'il y a un lobby extrêmement puissant en faveur du plastique, et donc c'est un sujet qui est très emblématique. Cette loi, c'est
et
pour
que
ça
c'est
que...
pas facile de se désintoxiquer du plastique non plus.
Absolument, absolument, et c'est pour ça que évidemment il faut qu'il y ait des transitions. Il n'en demeure pas moins que je crois que cette loi, elle est largement inutile. D'abord parce que c'est le prototype d'une loi qui est à la fois bavarde et lointaine. Elle est bavarde parce que elle ne fixe qu'un objectif, mais il n'y a aucune mesure concrète, et elle est lointaine parce que 2040, c'est exactement la même date que l'interdiction des véhicules à moteur thermique. On voit, on mesure ce qu'est l'interdiction, le saut de l'interdiction des véhicules à moteur thermique.
Oui.
Pour le plastique, on aurait sans doute pu aller plus vite, et il y a beaucoup de sujets sur lesquels on va plus vite. Il y a eu des avancées européennes et des avancées françaises toutes ces dernières années qui font que l'année prochaine, par exemple, on le sait, les cotons-tiges, les pailles, les touillettes à café, que
les
tout
pic-astèques. Ça... Vous oubliez les pic-astèques.
J'ai découvert
l'existence des pic-astèques en étudiant cette loi.
Les pic-astèques, c'est quand vous faites une fondue, eh bien, pour pouvoir piquer votre steak, vous le prenez avec
le plastique ne fond pas, justement
après la cuisson.
Pardon pour mon ignorance.
C'est pas dans la cuisson, Ali.
Mais en l'occurrence, Natacha Polony, quand vous écoutez Brune Poirson vous dire que la France est en pointe sur le sujet, et que c'est une question qui est extrêmement complexe parce que cette transition ne se fera pas du jour au lendemain entre... on passerait d'un monde à un autre monde et que donc il faut du temps. Vous non, trouvez que c'est un manque d'ambition malgré tout?
C'est ce que je disais en préambule. Bien sûr qu'il faut du temps, mais il y a un juste milieu à trouver. Et là où je rejoins Gilles sur ce point, c'est que c'est une question de, comment dire, de message que l'on envoie. Il y a des éléments que l'on peut mettre en place immédiatement. Par exemple, en effet, les interdictions, d'ailleurs, ça va être repoussé vraisemblablement d'un an, l'interdiction des pailles et des pic-à-steaks, donc de 2020 à 2021. Mmh. Or, là aussi, on ne voit pas que ce soit particulièrement indispensable pour la vie des gens. Donc, voilà. Mais il va y avoir des messages à faire passer petit à petit, et surtout cette prise de conscience à chaque fois que nous utilisons un morceau de plastique. Le problème, c'est un problème aussi législatif, c'est-à-dire qu'il faut nommer chaque type de plastique et d'emballage pour être sûr que la loi intègre tout. De fait, c'est compliqué, mais un peu d'ambition, un peu surtout de précision et de volonté face à des lobbies, ça serait quand même vraiment indispensable.
Vous parlez comme Greta Thunberg, Gilles.
Ça, c'est une comparaison qui
sans accuser les vieux ou qui que ce soit d'autre. Hein. C'est la grande différence.
Deux phrases.
D'un mot avant de passer au débat.
Oui, deux phrases. Première phrase, le sujet est beaucoup la capacité de mise en œuvre et donc de soutenir les entreprises qui innovent et notamment qui innovent dans la chimie du végétal et surtout de réussir à monter des projets de taille suffisante parce qu'on est sur un vrai changement de modèle et il faut que ça suive. Et donc il ne suffit pas d'aller dans le bon sens, il faut y aller à la bonne vitesse.
Avec de l'investissement.
Deuxième mot, donc ça masque ce débat, on s'est polarisé beaucoup sur cette question-là, ça masque d'autres éléments qui sont des éléments positifs de cette loi. C'est la première fois qu'il y a une loi sur l'économie circulaire et hier soir a été adoptée une mesure qui met à la disposition obligatoire les invendus, après les invendus alimentaires de la loi Garot sous le quinquennat précédent, c'est l'ensemble des biens, y compris sur Internet, qui sont mis à disposition obligatoire des invendus. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est positif.
Oui. Donc vos enfants auront des cadeaux, des jouets en bois pour Noël? Si je comprends bien.
Vous rigolez, mais j'ai acheté. Il y a une très belle entreprise française qui fait des jeux en bois de hêtre, qui est dans le Jura, et qui fait des choses formidables, des jeux de construction où on peut emboîter. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Eh ben écoutez, les enfants, vous voici prévenus. Merci à tous les deux.